t'es trompé. Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a condamné dimanche soir l'attaque terroriste lâche et barbare dans laquelle 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, ont été tuées dimanche dans la zone de Kouré lors d'une excursion touristique. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa. Au Mali, la figure de proue de l'opposition, Mahmoud Diko, a accusé dimanche la France d'interférer dans la politique locale en apportant son soutien au premier ministre Boubou Cissé, dont il réclame la démission. Le Mali est ébranlé par une profonde crise sociopolitique depuis juin, malgré des tentatives de médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. En Mauritanie, la présidence a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dimanche soir après un rapport parlementaire liant d'anciens ministres des affaires financières de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Selon le secrétaire général de la présidence, ce remaniement va donner aux ministres en question le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait procédé jeudi, sans en donner la raison, à un changement de premier ministre et annoncé un remaniement ministériel. En République démocratique du Congo, les syndicats des enseignants de Bukavu au sud Kivu dans l'est et ceux de Kikwit au Kwilu dans l'ouest ont annoncé dimanche qu'ils ne reprendraient pas les cours ce lundi après la fin de l'état d'urgence pour lutter contre le COVID-19. Ils reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté un accord qui disposait qu'à partir d'avril 2020, tous les enseignants nouvellement recrutés seront payés, a expliqué à l'AFP Jacques Chirimouami, porte-parole du syndicat des enseignants catholiques de Bukavu. À Madagascar, malgré l'augmentation du nombre des contaminations, le président Ange Rogeoel a défendu dimanche soir son remède, le COVID organique, une tisane à base de plantes, affirmant que sans cette potion supposée être efficace contre le coronavirus, son pays aurait vu des cadavres éparpillés dans la rue. On y compte plus de 13 000 cas, dont 148 décès. Le cap des 5 millions de cas de COVID-19 a été franchi dimanche aux États-Unis, où l'on déplore plus de 162 000 morts. Suit le Brésil qui dépasse les 100 000 morts pour plus de 3 millions de cas. Dans le monde, près de 730 000 personnes ont été tuées et plus de 19 millions au total contaminées depuis fin décembre, selon un comptage de l'AFP dimanche. La Nouvelle-Zélande, elle, a atteint dimanche les 100 jours sans aucune nouvelle contamination, mais les autorités sanitaires ont averti qu'il était hors de question de baisser la garde. La police belarusse a dispersé par la force dimanche soir des foules de manifestants après une élection présidentielle qui a opposé le président Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans et une rivale inattendue, Svetlana Tikhanovskaya. Sa rivale a dénoncé des fraudes et a estimé avoir le soutien d'une majorité. Loukachenko est crédité de près de 80% des voix. À Taïwan, la présidente Tsai Ing-wen, bête noire de la Chine, a reçu ce jeudi le secrétaire américain à la santé, Alex Azar, arrivé dimanche à la tête de la plus éminente délégation américaine sur l'île depuis que Washington a cessé de la reconnaître en 1979. La visite a été condamnée par Pékin. À Hong Kong, le patron de presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai a été arrêté pour des soupçons de collusion avec des puissances étrangères dans le cadre de la nouvelle loi de sécurité nationale, a dit lundi un de ses conseillers. Cette nouvelle loi imposée fin juin par Pékin a été critiquée par les pays occidentaux. La suite de nos informations, 6 Français et 2 Nigériens sont morts ce week-end au Niger. Ils ont été attaqués dimanche par des hommes armés dans la zone touristique de Kouré, à une 60aine de kilomètres de Niamey, la capitale. C'est la première fois qu'une attaque a lieu dans cette zone. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, une enquête et des opérations de ratissage en collaboration avec les partenaires sont en cours pour dénicher les auteurs de cette attaque intervenue dimanche en fin de matinée à 6 km du poste de contrôle de douane de la localité de Kouré, située à 60 km de Niamey sur la route nationale numéro 1. Les victimes, 6 Français et 2 Nigériens, selon le même communiqué, étaient à bord d'un véhicule d'une ONG internationale. L'identité des assaillants n'est pas connue et l'attaque n'est encore pas revendiquée. Kouré est une zone touristique avec notamment les dernières espèces de girafes d'Afrique. Elle est située dans la région de Tillabéri, loin de la frontière avec le Mali. Elle n'a jamais connu d'attaque terroriste. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Inquiétude à Maurice face à la marée noire qui menace l'île. Les autorités affirment que le bateau pourrait se briser, faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé. Abdulrahman Dia.
Les équipes d'intervention sont provisoirement parvenues à bloquer la fuite d'hydrocarbures qui se déversait depuis plusieurs jours de la cale du bateau. Mais le risque que le vraquier se brise en deux est grandissant. Les fissures se sont creusées, la situation est encore pire, a déclaré le premier ministre mauricien Pravin Jugnauth. Le Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise mais battant au pavillon panaméen, transportait 3800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel lorsqu'il a heurté le 25 juillet un récif à pointe d'Esni. Situé sur la côte sud-est de l'île, ce récif est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement, ses eaux turquoises et ses zones humides protégées. Plus de 1000 des 4000 tonnes de carburant transportées par le Wakashio se sont déjà déversées en mer, a indiqué la société qui exploitait le navire. Dimanche, des milliers de personnes ont afflué sur les rives pour tenter de limiter tant bien que mal la marée noire qui menace l'île.
La communauté internationale se mobilise pour le Liban lors d'une visioconférence organisée 5 jours après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth. Plus de 250 millions d'euros d'aide ont été collectés. Le point avec Michel Joseph.
La communauté internationale a affirmé qu'elle n'allait pas laisser tomber le Liban, mais exiger que son aide soit directement distribuée à la population. Dans cette période horrible, le Liban n'est pas seul, ont assuré la trentaine de chefs d'État, de gouvernement et de ministres ayant participé à cette visioconférence organisée par l'ONU et la France pour aider le Liban. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 60 millions d'euros afin de répondre aux besoins les plus pressants. Les pays du Golfe ont également ouvert leur portefeuille, à l'image du Qatar qui a promis 50 millions de dollars. La France, dont la contribution s'élève à 30 millions d'euros, va envoyer plus de 18 tonnes d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide alimentaire. Donald Trump a, lui, appelé au calme, reconnaissant la légitimité des appels des manifestants pacifiques à la transparence. Il a aussi exhorté le gouvernement libanais à mener une enquête complète et transparente sur les explosions. De nouvelles manifestations se sont déroulées dimanche dans ce pays au lendemain d'une journée de mobilisation contre le pouvoir.
La Minute Éco, John Linden.
La Banque mondiale a approuvé 114 millions de dollars pour le Nigeria sous forme d'un prêt de 100 millions de dollars, une subvention de 14 millions de dollars. Cette agence sera répartie entre les 36 États de la Fédération nigériane. Une partie devrait aussi servir à l'achat au niveau fédéral d'équipements médicaux, de tests et de médicaments. Au Sénégal, l'Agence pour la régulation des télécommunications et des postes a enjoint vendredi l'opérateur de téléphonie Orange à surseoir à ses nouvelles tarifications après de vives protestations des abonnés. Orange avait annoncé le 22 juillet 5 nouvelles offres. En 4 ans, les prix de l'Internet mobile ont baissé en moyenne de 70% et ceux de l'Internet fixe de 83%. Et le Sénégal a aujourd'hui des tarifs Internet parmi les plus bas d'Afrique, c'est justifié l'opérateur. Les exportations de diamants bruts du Botswana ont chuté de 68% au deuxième trimestre selon les données publiées par la Banque centrale. Les exportations de diamants de Botswana, une co-entreprise entre le Botswana et De Beers, se sont élevées à 293 millions de dollars au deuxième trimestre contre 916 millions de dollars à la même période l'année dernière.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Élection à la Fédération ivoirienne de football, rien n'a encore joué.
Tout à fait. On attend la liste officielle des candidatures prévue normalement ce lundi. Mais sans l'attendre, Sori Diabaté s'est déjà lancé dans l'arène, comme le voit dans ce reportage de Siriki Baro.
C'est par la ville d'Adzopé que Sori Diabaté et son équipe ont débuté leur tournée dans le Grand Est de la Côte d'Ivoire le 3 août dernier. Dans cette ville, comme dans toutes les autres qu'il a pu visiter, Sori Diabaté a rencontré les dirigeants de clubs à qui il a exposé son programme et sa vision du football ivoirien. Pour un de ses proches collaborateurs qui a requis l'anonymat, l'heure est venue pour son candidat de prendre le devant de la scène.
Le discours, c'est de planer son programme, son projet pour le football ivoirien pour les 4 années à venir. Il a demandé de lui faire confiance. Il a l'habitude de dire qu'il a été copilote pendant longtemps. Il a appris, il a eu les heures de copilotage nécessaires. Aujourd'hui, il peut être pilote. Donc lui-même, il veut être au devant de la scène.
Accusé par certains d'avoir déjà lancé sa campagne bien avant la date prévue, le même collaborateur de Sori Diabaté a fait des précisions.
On est dans la période de pré-campagne pour tous les candidats. Je vous apprends que Idriss Diallo a fait une même tournée à l'ouest du pays. Idriss Diallo a fait la même chose. On est dans la période de pré-campagne et c'est prévu par les tests.
Après 4 jours passés dans l'est du pays, Sori Diabaté, qui a le soutien de Sidi Diallo, président sortant de la FIF, a regagné Abidjan dans la soirée du vendredi 7 août. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
En Tunisie, on jouait la 18e journée de la Ligue 1.
Et l'Espérance de Tunis, leader au classement, a été contraint au partage des points par l'Union sportive de Ben Guerdane. Les 100 et or comptent tout de même 12 points d'avance sur le club sportif facien qui a concédé son deuxième nul d'affilée en se faisant accrocher hier par le club athlétique bizertin, score 0-0. De son côté, l'Étoile du Sahel poursuit sa série de victoires en disposant de Tataouine 2-0 pour consolider sa 4e place. Et puis, en clôture de cette 18e journée, le club africain est venu difficilement à bout de Metlaoui, score 2-1.
Au Maroc, le Raja de Casablanca a pris la tête du championnat.
Oui, les Verts victorieux 2-0 de l'Olympique de Safi lors de la 20e journée s'installent sur le trône de la Botola. Ils possèdent désormais 2 points d'avance sur le Wydad de Casablanca et 3 points sur la Renaissance de Berkane. Et puis, l'Égypte aussi a repris hier son championnat par la 18e journée. Et solide leader, Al Ahly du Caire n'a pas eu de difficultés pour se défaire de ENPPI 2-0. Son dauphin au classement, le Zamalek du Caire joue aujourd'hui à l'Ittihad.
Élisée, la Mauritanie aussi va reprendre son championnat.
Exactement Idrissa, la fédération a obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour le retour de toutes les compétitions sportives à partir du 1er septembre prochain après plus de 5 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. La Super D1, arrêtée le 11 mars dernier, va donc reprendre à la 20e journée, tout comme la Coupe du Président de la République au stade des quarts de finale.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, 6 Béninois ont été condamnés par la cour criminelle à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans pour avoir organisé le trafic d'enfants entre leur pays d'origine et Brazzaville. La décision du juge congolais a été saluée par les ambassades sur place et les ONG travaillant pour le bien-être de l'enfant. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Ces lourdes peines sont forcément un message que le juge criminel de Brazzaville a envoyé vers d'autres personnes qui profitent du silence des parents et de la société pour perpétuer ce trafic de la honte. Une condamnation que continue malgré tout de contester l'avocat de la défense, Maître Kikoro.
La preuve de la commission de l'infraction n'est pas rapportée. Nous souhaitons que la justice congolaise puisse croître positivement. Pas parce qu'il y a une pression américaine que nous sommes obligés de rendre des décisions pour faire plaisir.
En effet, dans un tweet suivant la fin du procès, l'ambassade des États-Unis à Brazzaville a félicité le juge congolais pour avoir condamné fermement les promoteurs du trafic des êtres humains dans le pays. L'année dernière, les agents du FBI étaient venus à Brazzaville pour former des gendarmes et des policiers sur ce phénomène. Christian Mabiala, le directeur général des affaires sociales, partie civile au procès, encourage le juge à les accompagner dans la traque des trafiquants, soutenant en même temps que les enfants congolais sont aussi touchés par ce phénomène.
Les condamnations qui ont été prononcées pour faire de telle sorte que le Congo ne soit plus un pays qui doit héberger ces trafiquants. Ces trafiquants qu'on ne peut même pas qualifier, quoi. Comment prendre des enfants d'autrui, emmener, et ces enfants doivent travailler par du matin au soir. Et je pense que c'est pas les derniers. Je crois que ça existe encore au niveau de Pointe-Noire, au niveau du Grand Marché, au niveau de Brazzaville. On va continuer à les traquer et les condamner. Pourquoi les condamner? Pour que ce trafic ne puisse plus exister dans notre pays. Et nous voulons ce que ces trafiquants ne viennent plus chez nous avec ces enfants.
À Pointe-Noire, considéré comme l'un des foyers du trafic des enfants, les ONG mettent des douchers doubles, mais la répression ne suit pas. Le secrétaire permanent de la commission diocésaine Justice et Paix, Brice Makosso, appelle à une large coopération dans la sous-région.
Évidemment, ce phénomène, il existe à Pointe-Noire. Les autorités publiques et l'UNICEF se sont saisies de la question. Il y a quelques avancées qui sont encore timides. Il y a une association qui continue à faire un travail intéressant dans la ville, Alto. Mais je pense qu'il faudrait encore redoubler d'efforts. Il faudrait que les ministères concernés travaillent ensemble pour voir dans quelle mesure stopper ce phénomène depuis les pays d'origine.
À côté de ce trafic, il y a également le phénomène des adoptions en cascade des enfants dans les familles vivant en Europe. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Gabon, plusieurs secteurs de l'économie nationale se réorganisent pour faire face à l'impact de la crise du Covid-19. La pêche artisanale renoue avec son marché de la sardine, une activité bien tenue par les femmes le long des côtes du pays. À la découverte d'un débarcadère à Sardine de Libreville, reportage d'Ismaël Obiangze.
Sur cette lagune de Libreville, l'excitation des pêcheurs est à son comble. Après plusieurs heures de traque, ils viennent de remonter quelques poissons en un coup de filet. Depuis le mois de mai dernier, les pêcheurs ont amorcé la phase de production de la sardine, l'un des poissons phares des eaux gabonaises. Une période de production qui devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Les pêcheurs mettent en vente leur prise matinale auprès des marailleuses. Céline Ningonondo est présidente de l'association des transformatrices de poissons.
Et là, ils sont en train de débarquer la sardine sur des pagayés, donc les transformatrices qui vont aller à leur fumoir pour aller transformer la sardine.
Selon la Direction nationale des pêches, La pêche artisanale débarque près de 10 000 tonnes de sardines par an sur les différents sites, dont près de la moitié est vendue frais. Ce matin, il n'y en aura pas assez pour tout le monde à cause d'une offre encore faible par rapport à la demande du moment. Alda Ibiga est marieuse.
Je suis venue pour me ravitailler en sardines fraîches. Malheureusement, il n'y a pas eu. Donc, j'ai dû prendre la bossue, 5 kilos de bossue, pour aller glacer et puis le revendre demain matin.
Le reste de la sardine doit passer par le salage et le fumage. Cette activité de transformation se fait près des lieux de débarquement. Jessica Chineke est une fumeuse de poisson.
Je suis en train de classer la sardine. Lorsqu'on finit de classer, on met le feu, par exemple, comme ici, là.
Juste à côté de Jessica, Alice Obasanjo, 35 ans, vendeuse de poissons fumés depuis son jeune âge, évoque le calvaire de son activité en pleine Covid-19.
C'est l'agent des carburants qui pointe tout. Avant, on vend un litre de pétrole à 350. Maintenant, un litre de pétrole est devenu 800, 700. Donc, pour aller jusqu'à la pêche, notre mari peut prendre au moins 30 000, 40 000. Pour aller. Et les policiers qui vont rester à la route vont prendre aussi pour eux. Donc, on ne gagne pas grand-chose dedans.
À Libreville, très peu d'acteurs de ce secteur de la pêche artisanale accèdent à la propriété au motif des procédures administratives qui sont longues. Alors d'expulsion en expulsion, ils ont à chaque fois reconstruit leur village sur pilotis de façon provisoire sur les rives du fleuve Laloé, toujours plus loin de l'embouchure. Libreville, Ismaël Obiancé pour VO Afrique.
Écoutez VO Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Sénégal, le gouvernement a annoncé vendredi soir un nouveau durcissement des mesures contre la Covid-19. Les rassemblements au niveau des espaces publics, des plages, des terrains de sport et des salles de spectacle sont interdits, tout comme les manifestations sur la place publique. Les populations ont accueilli cette nouvelle avec une certaine indifférence, alors que les chiffres ne cessent de grimper. Le Sénégal comptait dimanche un total de 11 175 cas positifs, dont 7 352 guéris, 232 décédés et 3590 sous traitement. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
À peine un mois après la levée de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu et l'allègement des mesures, les autorités sont revenues sur certaines de ces mesures annonçant un durcissement dans le cadre de la prévention. Une décision qui témoigne du manque d'autorité de l'état, d'après Alcéni Camara.
Ils avaient suivi la volonté de la population pour leur permettre de vaquer à leurs occupations, mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que cette méthode ne pouvait plus prospérer car les cas ont considérablement augmenté. Maintenant, il faut reconnaître que ceux qui nous dirigent ne joignent pas l'acte à la parole, car ils s'affichent souvent dans des manifestations publiques en pleine pandémie. On ne peut pas interdire aux populations de se rendre dans les cérémonies et être les premiers à déroger à cette règle. Si les autorités avaient rompu avec les festivités, la population suivrait facilement.
Pour les citoyens comme Abdou Seck, c'est un retour aux décisions initiales qui ne va pas changer grand-chose dans l'attitude de beaucoup de Sénégalais qui montrent une certaine indifférence vis-à-vis de la maladie.
Les annonces du ministre de l'Intérieur n'auront pas un réel impact sur le comportement des gens. Ici, tout le monde ne se préoccupe plus du coronavirus et la récente fête de la Tabaski l'a montré. Les gens ont acheté des moutons et fréquenté les lieux de commerce avec une densité incroyable et souvent sans respecter les mesures barrières. En plus, les forces de l'ordre semblent avoir démissionné. On les voit rarement contrôler les transports en commun ou les lieux accueillants du public. Et nous savons tous que sans une réelle force de dissuasion. Les Sénégalais ne vont jamais se conformer aux mesures édictées. Certains doutent même de l'existence de la maladie.
La banalisation de la pandémie a certainement fait réagir les autorités, d'après ce citoyen qui a requis l'anonymat. Pour lui, le comportement des Sénégalais a motivé le retour aux restrictions.
La répétition, elle est pédagogique. Parfois, il est bon de rappeler aux citoyens les mesures de civilité, n'est-ce pas, et autres. Donc c'est quelque chose qui est normal de rappeler les gens. Si toutefois que l'on remarque qu'il y a un débordement, que les gens commencent à omettre ou à ne pas respecter les limites qui ont été fixées pour la santé, surtout pour l'intérêt général, je dirais, mais c'est quelque chose que tout le monde doit respecter. Il est bon de les rappeler.
Pour que tout le monde se conforme aux mesures, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement des contrôles par les forces de l'ordre et une tolérance zéro vis-à-vis des récalcitrants, avec des peines pouvant aller d'une simple amende à un emprisonnement. Cette nouvelle ligne dure est censée freiner la flambée notée au niveau des cas issus de la transmission communautaire. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Lutte contre la COVID-19 au Cameroun, les peuples autochtones font preuve de résilience. L'impact des mesures socio-économiques prises par le gouvernement contre la pandémie a été très faible au sein de cette communauté, qui a dû prendre par ailleurs des initiatives endogènes pour faire face à la pandémie. C'est ce que révèle une étude menée dans les 5 grands groupes de peuples autochtones du Cameroun. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
C'est à travers le projet Citizen Voice for Change, CV4, entendez voix des citoyens pour le changement, que plusieurs leaders communautaires ont été sensibilisés au COVID-19, avec pour mission de porter à leur tour le message des mesures barrières auprès des populations autochtones.
Les peuples autochtones sont très fragiles dans ce genre de situation.
André Awuma est leader communautaire à Djoum, dans la région du Sud, à plus de 276 km de Yaoundé, où l'on retrouve les Baka, l'un des peuples autochtones du Cameroun.
Les communautés n'étaient pas habituées de gérer ce genre de situation. Il fallait la sensibilisation pour les amener à comprendre ce système de vie.
Le gouvernement a aussi joué sa partition dans cette sensibilisation, notamment par le canal des services d'action sociale dans la centaine de communes abritant les peuples autochtones. Henri Nyambi Twadikoso, directeur de la solidarité nationale et du développement social au ministère des Affaires sociales.
C'est des populations qui vivent en vase clos. Et donc, il faut que dans les interactions avec les autres communautés, ils s'assurent que les mesures barrières sont respectées. Et c'est donc dans ce sens-là que la campagne est menée. On met aussi à leur disposition les kits sanitaires.
Delphine Aou est une femme Baka du village d'Impam, situé dans l'arrondissement de Mindourou, région de l'Est, à plus de 290 km de Yaoundé. Elle est l'un des points focaux de lutte communautaire contre le COVID-19 dans son village.
Il y a une équipe médicale qui est passée au village. On nous disait seulement de laver les mains. Ils n'ont pas eu à nous faire des tests. Nous utilisons nos mesures barrières venant de notre tradition, avec les herbes, les feuilles et autres.
Le recours des populations autochtones aux connaissances et pratiques traditionnelles s'est généralisé durant la pandémie. Romia Longono, du Centre pour l'environnement et le développement, a sillonné 17 villages où résident des populations autochtones.
Dans chaque communauté, il y a eu les anciens qui sont retournés vers la forêt, toujours avec l'esprit de la forêt qu'ils appellent les djengi, qui, disent-ils, a été d'un grand apport dans la préparation du médicament pour prévenir la maladie.
Toutefois, au regard de leurs conditions de vie et d'extrême pauvreté, la vulnérabilité économique de ces populations s'est vite fait ressentir au sein des différentes communautés. Une fois de plus, Romia Ngono, auteur d'une étude sur la résilience des peuples autochtones du Cameroun au COVID-19.
Le transport a augmenté, ce qui fait que les déplacements, par exemple, pour aller vendre les produits forestiers non ligneux, ces populations ne peuvent plus le faire aisément. Le prix même donc, de ces produits a drastiquement baissé. Donc, elles sont obligées soit de consommer elles-mêmes ces produits, soit de les stocker, et les conditions de stockage ne sont pas toujours évidentes.
À ce jour, aucun cas de nouveau coronavirus n'a été officiellement enregistré au sein des 5 grands groupes de peuples autochtones du pays que sont les Baka, les Bagili, les Bakola, les Bedzan et les Bororo. Yaoundé, Emmanuel Jounta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.